Info sur VOA Afrique.
h 05 ici à Washington, 18h50 en temps universel. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre libre antenne à votre avis sur VOA Afrique. Je suis Alexandrine Rollognon à ce micro pour cette discussion autour de la fin de la mission de l'ONU au Mali. Après 10 ans de présence au Mali, la mission multidimensionnelle de l'ONU, connue sous l'acronyme de MINUSMA, a définitivement fermé ses portes lors d'une cérémonie qui s'est tenue aujourd'hui même à son siège à Bamako. La mission qui a mobilisé plus de 13 000 casques bleus sur le territoire malien a été la plus meurtrière de l'histoire de l'ONU avec 310 casques bleus tués. La fermeture met fin à un engagement commencé en 2013 face à la propagation de violences qui menaçaient la stabilité du Mali. Quel bilan faites-vous des 10 ans de l'ONU au Mali? Et pour ce débat, je suis avec Idriss Safal, rédacteur en chef à VOA Afrique. Bonsoir Idriss, merci de nous rejoindre. Bonsoir Idriss. En attendant qu'Idriss nous rejoigne, nous attendons également vos réactions et vos appels. Bonsoir Idriss, merci de nous rejoindre pour cette discussion.
Comme j'ai dit, bonsoir Alexandrine et bonsoir aux auditeurs de la VOA.
Avant d'écouter votre premier commentaire, je vous livre d'abord cette réaction d'un de nos auditeurs, Yahya Hag, qui nous dit « Merci à eux, ils ont essayé, parlant de l'aménagement, paix aux âmes des disparus. Maintenant, le Mali, avec ses amis sahéliens, va prendre leur destin en main. » C'est la réaction de Yahya Hag. Idriss, pour la plupart des commentaires que nous avons reçus pour ce débat, la mission onusienne n'a pas réussi à juguler la crise sécuritaire. Est-ce qu'on peut revenir avec vous sur la principale raison du déploiement de cette force onusienne au Mali?
Le nord du Mali a été occupé par le mouvement pour l'unicité de qui s'appelait Moujawo à l'époque, qui était plus ou moins proche de Al-Qaïda. Et quand ils ont voulu descendre pour aller sur Bamako, je pense que la France a d'abord intervenu pour empêcher que les djihadistes descendent sur Bamako. Et que, je pense que c'est après donc l'opération des Français que l'ONU a envoyé ses casques bleus. Et la mission de ce que les casques bleus devaient faire n'était pas tout à fait claire, parce que les casques bleus n'étaient pas venus pour réellement combattre les djihadistes. Mais d'un autre côté, je pense 2 ans après, entre les djihadistes et les rebelles Touareg, disons que la frontière était toujours floue, quoi. Et donc c'est ça qui a fait que la mission de l'ONU au Mali était très très complexe, quoi. Et elle ne pouvait pas aller combattre les djihadistes, elle était là. Bon, elle était implantée dans beaucoup de régions dans le nord, et que finalement, quand on s'est rendu compte que les djihadistes se propageaient partout, un peu partout au Mali, et même aller vers le sud, les populations, en fait, ont commencé à dire que cette mission ne sert pas à grand-chose, et que jusqu'à ce que Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères, demande carrément le départ de la mission onusienne du Mali, et que c'était en juin dernier, et que le 31 décembre, l'ONU doit avoir plié bagage totalement du Mali.
On va revenir tout à l'heure sur les 10 ans de cette mission au Mali, ce qu'elle a pu réussir et où elle a échoué, selon les commentaires de certains Maliens. Mais nous avons en ligne Youssouf Ouedraogo. Bonsoir Youssouf.
Bonsoir Alexandrine, bonsoir à toute l'équipe de VOA Afrique, aux auditeurs et auditrices.
Merci de nous rejoindre. Vous avez suivi depuis quelques mois l'actualité sur le retrait de la MINUSMA au Mali. Que pensez-vous maintenant que c'est officiel? Que pensez-vous de ces 10 ans de l'ONU au Mali?
Alexandrine, je pense qu'il est quand même difficile de juger ce bilan des 10 années de présence de la MINUSMA sur la fin plus que mouvementée de sa mission. Parce que ces années de présence tranchent aussi avec les stabilités des institutions locales. Et la reprise en main par Bamako de la ville symbolique de Kidal est vraiment loin de convaincre de la stabilité retrouvée des institutions. Et donc, moi, je pense que de par leur engagement militaire sur le théâtre des opérations, il faut reconnaître que les forces onusiennes au Mali ont consenti des efforts considérables, avec à la clé la perte en vies humaines d'au moins 187 de ces soldats au nom de la paix dans ce pays. Et la mission était dans un premier temps de stopper à travers donc les forces françaises la progression du mouvement séparatiste à dominante Touareg d'alors, qui lui-même devait aussi faire face à des courants djihadistes et terroristes dans ces zones qu'ils occupaient avant l'intervention de la MINUSMA. Alors, pour moi, l'engagement militaire donc était au rendez-vous. Malheureusement, la structure politique conduite par la France, qui a servi d'encadrement à cette force, n'a jamais franchi le cap de la bureaucratie des intérêts occultes. Conséquence de la désorientation de ses objectifs donc visés du départ. Cela dit, je crois qu'aujourd'hui, la MINUSMA ferme officiellement ses portes et le Mali doit désormais assumer sa mission régalienne qui n'est autre que de s'assurer de l'intégrité territoriale. Et cela inclut de faire face à des tensions intercommunautaires et les terroristes et les autres séparatistes.
Youssouf, j'aimerais bien avoir votre avis sur comment cette mission a été vue à quelques mois de la fin ou bien quand le retrait a commencé. Comment les Maliens ont vu la fin de cette mission dans leur pays, le sentiment qui a accompagné la présence même de ces militaires au Mali?
Je crois que le sentiment qui a accompagné le retrait de la MINUSMA est beaucoup plus dominé par le sentiment anti-français qui, aujourd'hui, quoi qu'on veuille faire croire, domine l'opinion publique malienne sur place et dans l'ensemble de la sous-région, je veux dire. Et je crois que, à quelque part, la MINUSMA a été victime, n'est-ce pas, du sentiment anti-français qui a conduit donc à son démantèlement pur et simple. Et je crois qu'aujourd'hui, Bamako, même s'il peut compter sur la force et le courage de l'Alliance des États du Sahel auquel il fait partie, aux côtés donc du Burkina et du Niger, soutenu par des mercenaires étrangers, notamment Wagner, je crois que la grosse interrogation, comme toujours, c'est comment lever les fonds pour financer justement et avec quels partenaires, quand on sait que ces pays vivent une situation économique critique et avec un état de droit qui n'existe presque plus. Je crois que le redressement de l'état de droit au Mali passe nécessairement par le rétablissement de la société civile institutionnelle dans ses droits de regard et ses droits de proposition. Et moi, je commande vraiment le dialogue et la diplomatie dans la lutte contre l'insécurité, notamment le terrorisme et autres djihadismes, parce qu'on ne peut pas faire tomber du ciel comme ça la sécurité pour des populations avec qui on n'est quasiment pas en contact. Et le tout militaire a des limites aux conséquences vraiment souvent plus dramatiques qu'on imagine. Et l'État doit travailler avec les pouvoirs locaux et les courants religieux, coutumiers, la société civile et des personnes ressources. Parce que très souvent, vous voyez, on lutte contre les prises d'armes sans pouvoir identifier les réelles motivations de ces prises d'armes-là. Et que ce soit en RDC, au Mali, au Niger ou au Burkina Faso, personne ne vous dira avec conviction pourquoi est-ce que des gens avec qui tout le monde vivait en parfaite harmonie et ont décidé de sombrer dans l'endoctrinement, je dirais, déviante. On a vu dans un passé récent, pas trop longtemps, de tout le poids qu'a pu peser l'émir de Gibo au Burkina Faso, par exemple, pour permettre le ravitaillement en vivres de la ville de Gibo, alors sous blocus terroriste, avant que les autorités ne décident finalement de ne rien négocier. Et cela, je pense, nous a conduit au récent malheureux drame dans cette même ville. Mmh. On a vu aussi, Alexandrine, récemment, le rôle crucial qu'a joué le sultan de Sokoto du Nigeria pour éviter au Niger voisin une intervention militaire de la CEDEAO qui, pour moi, aurait pu avoir des conséquences sécuritaires désastreuses pour la région.
Youssouf, je vous remercie pour votre contribution. Il y a plusieurs aspects de votre commentaire sur lesquels j'aimerais revenir avec Idriss Fall. Idriss, vous êtes toujours avec nous?
Oui, absolument, Alexandrine.
L'aménagement qui a bénéficié, non pas bénéficié, c'est positif, qui a souffert de sentiments anti-français, est-ce votre avis?
En partie. N'oubliez pas que la mission de l'ONU, en fait, pour qu'elle change de statut avec une... pour tuer des gens, il faut changer et le mettre sous article 7. Quoi. Donc, déjà, ça, une mission de paix ne peut pas être là. Et on le dit, vous attaquez, vous défendez quand on vous attaque. Mais les terroristes, les djihadistes, eux, ils ne connaissent pas ces règles-là. Ils mènent une guerre asymétrique. Donc, ça, c'était déjà une difficulté. Et à cela, c'est ajouté quand le Mali a rompu avec la France, complètement. À tous les traités militaires, ils n'en veulent plus. Et à ce moment-là, ils sont approchés de ce qu'ils appellent les instructeurs russes. Et certains États occidentaux, notamment la France, n'ont pas aimé ça. Et on s'est rendu compte à un moment donné, l'ONU semblait prendre position dans un débat qui n'était pas le sien. On a entendu l'ONU demander d'aller faire des enquêtes. Imagine-toi des casques bleus qui sont venus faire des opérations de maintien de la paix, qui réclament d'aller faire des enquêtes sur des massacres supposés que les soldats russes auraient perpétrés à l'intérieur du Mali. Donc, en fait, l'ONU était en train même de quitter sa mission régalienne de maintien de la paix et qu'elle se mettait à faire du droit de l'homme. Et je pense que ça n'a pas non plus plu aux autorités maliennes. Et ça a été quelque chose qui a contribué à la demande de, écoutez, vous quittez chez nous et nous, on va se débrouiller tout seul. Donc, voilà, quoi, c'est ça qui s'est passé. Et que maintenant, il y aura des gens qui vont peut-être souffrir un peu du départ de l'ONU à Bamako, à Gao, à Tombouctou. Oui, beaucoup de populations ont quand même trouvé le moyen de trouver un travail là-bas, soit comme chauffeur ou bien pouvoir se faire soigner. Donc, et certaines télécommunications étaient plus aisées avec les Nations Unies.
Et il y a aussi une question.
Il y a des gens qui vont un peu payer pour ça, quoi.
Il y a aussi une question qui subsiste. Quel partenaire désormais pour faire face au terrorisme ou bien à l'insécurité au Mali? Vous allez nous aider à comprendre tout à l'heure, Idriss. Mais en attendant, nous avons en ligne Latif. Bonsoir, Latif, et merci de nous rejoindre.
Bonsoir, madame. Bonne émission à vous.
Merci. Quel est votre avis sur ce sujet? Quel bilan vous faites des 10 ans de l'ONU, de la mission onusienne au Mali?
Bon, 10 ans, je dirais que dès le début de la mission onusienne, bon, les Maliens avaient fondé un grand espoir et ils pensaient que la force onusienne va les aider à bouter dehors le terrorisme. Mais par la suite, bon, beaucoup n'ont pas compris le fonctionnement de l'ONU. On nous fait comprendre que, en fait, la force de l'ONU n'est pas là pour lutter contre le terrorisme. C'est pour maintenir la paix. Comment on peut maintenir la paix dans un pays où il n'y a pas de paix? Si bien que les Maliens ont commencé par déchanter et par la suite, on s'est rendu compte qu'après le départ de Barkhane, c'est des rapports qui créaient de l'incompréhension entre les autorités maliennes et l'ONU. La mission de l'ONU attaquait les FAMA et accusait d'exactions sur les populations civiles en compagnie des supplétifs russes. Bon. Et c'est ce que les médias français disaient, c'est ce que les rapports de l'ONU aussi disent. Si bien que, bon, finalement, moi, je me suis dit qu'il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Puisque
donc vous pensez qu'aujourd'hui, le Mali est capable en lui-même pour faire face à l'insécurité sur son territoire?
Bon, le Mali, le territoire est très vaste. On ne peut pas dire que l'armée malienne seule peut faire l'affaire, mais le Mali peut nouer des partenariats et sur des bases claires avec des pays tiers.
Qui voyez-vous, par exemple, quel partenaire pour le Mali aujourd'hui?
La CEDEAO ne joue pas son jeu. En fait, la CEDEAO devait être la première force à aider le Mali à faire face au terrorisme. Mais la CEDEAO s'est mise en retrait et a préféré envoyer les forces dans les missions de l'ONU. Et il y a beaucoup de pays, bon, tout le monde parle de la Russie. Bon, pourquoi pas? La Russie peut aider. Et d'autres partenaires, la Turquie et autres, peuvent aider le Mali. Bon, mais tout dépendra de l'accord qui sera scellé entre le Mali et ses nouveaux partenaires.
Je vous remercie, Latif. Nous allons écouter la réaction de Jean-Eudes Lomé.
Bonsoir, Vue Afrique. Bonsoir, chers auditeurs. La mission de l'ONU au Mali, ce n'est pas une mission réussie. Ce n'est pas une mission réussie, et non seulement au Mali, mais de toutes les missions dont l'ONU a pris part, ce ne sont pas des missions réussies. Pour la simple raison que l'ONU n'a pas, au fait, l'intention de rétablir l'ordre de la sécurité, même si sur papier, il est écrit que l'ONU veut rétablir l'ordre de la sécurité, mais au fin fond, ce n'est pas ça. L'ONU, c'est pour poursuivre des intérêts personnels. de ces personnes-là qui forment l'ONU, de cette association-là qui forme, de ces dirigeants-là qui forment en fait l'ONU. L'ONU pouvait rétablir l'ordre, la sécurité au Mali en un an. Voire même moins d'un an, l'ONU pouvait rétablir l'ordre et la sécurité au Mali. Parce que l'ONU regroupe toute l'armée du monde entier. L'ONU a suffisamment de matériel. L'ONU a suffisamment de personnel pour rétablir l'ordre dans n'importe quel pays du monde entier. Mais quand ils arrivent sur le terrain, c'est autre chose. Les ordres qu'ils reçoivent, ce qu'ils font, c'est carrément autre chose que ce qui est écrit sur le papier. Quand ils arrivent, leur intention, c'est de nouer certaines relations, c'est de profiter des ressources minières et énergétiques de chaque pays, c'est de profiter de certains trucs, de certaines choses dont nous savons, même si on ne veut pas le dire ouvertement, nous le savons. Donc l'objectif principal de l'ONU, ce n'est pas pour... C'est pas pour établir l'ordre de la sécurité, mais c'est plutôt pour des intérêts d'une association donnée, d'une association de personnes données. Voilà. C'est pourquoi la mission de l'ONU au Mali et la mission de l'ONU en général, c'est un échec, ce n'est pas une réussite. Je vous remercie, Jean-Eudes Lomé, Togo.
Merci à vous également, Jean-Eudes. Bonsoir chez vous, à Lomé. Vous écoutez à votre avis sur VOA Afrique. On poursuit ce débat juste après cette pause.
À votre avis sur VOA Afrique.
À votre avis sur VOA Afrique, après 10 ans de présence au Mali, la mission multidimensionnelle de l'ONU, la MINUSMA, a définitivement fermé ses portes ce lundi. La mission qui a mobilisé plus de 13 000 casques bleus sur le territoire malien a été la plus meurtrière de l'histoire de l'ONU, avec 310 casques bleus tués, et cette fermeture met fin à un engagement commencé en 2013 face à la propagation de violences qui menaçaient la stabilité du Mali. Quel bilan faites-vous des 10 ans de l'ONU au Mali? Et nous parlons de ce retrait du mail de la MINUSMA avec Idriss Fall, rédacteur en chef à VOA Afrique, et vous également, vos réactions et vos appels que nous attendons ici sur VOA Afrique. Idriss Fall, un peu avant la pause, il y a Latif qui nous disait, mais que comment maintenir la paix dans un pays qui n'a pas de paix? Mais il y a quand même des points positifs à relever sur ces 10 ans de la MINUSMA passée au Mali.
Mais tu dis par rapport à la mission, leur objectif quand même, ça n'a pas été atteint. Bon, il y a des points positifs en sens qu'il y a des zones où les gens avaient trouvé du travail avec les camps de l'ONU. Mais c'est pratiquement impossible pour l'ONU de combattre des terroristes et des djihadistes. C'est une guerre asymétrique. Et au Mali, il y a la particularité, on ne sait pas. Si je donne le Moussao, c'était un certain Iyad Agali qui était là-bas, et en même temps que Al-Ghabas et Intallah. Al-Ghabas et Intallah, dès qu'il y a eu signature des accords de paix, il a créé un mouvement islamiste qui est là-bas. Et que donc, aujourd'hui, il est chef rebelle Tuareg. Le lendemain, il est leader islamique qui réclame la charia. Donc, combattre des gens qui sont interchangeants, l'ONU ne pouvait pas gagner cette guerre. Maintenant que l'ONU plus bagage, je crois que pour le Mali, le Niger et le Burkina Faso, ce sont 3 pays qui doivent unir leurs forces pour aller combattre fermement les djihadistes.
Justement, c'est la question qu'on se posait. Quel partenaire désormais pour le Mali avec la fin de la mission onusienne, le départ des militaires français, la fin du G5 Sahel? Qui aujourd'hui pour accompagner le Mali dans cette lutte contre le terrorisme?
Vous savez, on le dit pas assez. Vous savez que le Niger se battait sur 2 fronts contre le terrorisme. Le front de Difa dans le sud-est là-bas, avec non seulement Boko Haram et le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest. Mais est-ce qu'un soldat français est venu là-bas dans le sud-est du Niger? Ce sont les soldats nigériens qui ont gagné cette guerre.
Donc le Mali peut compter sur ses voisins directs, le Niger et le Burkina Faso.
Mais voilà. Donc, et à la limite, l'aide de l'État tchadien. Les Tchadiens, ne l'oublions pas, aussi au niveau de la force onusienne, c'est eux qui ont eu le plus de morts à l'intérieur des casques bleus. Donc, les pays de la sous-région peuvent le faire. Mais autre quoi. Donc, les gens décident de former ce qu'ils appelaient le groupe G5 Sahel, qui est venu s'ajouter à la mission des casques bleus. Le G5 Sahel, donc maintenant c'est fini, ils l'ont enterré cette semaine parce qu'il n'en restait que deux. Et donc le G5 Sahel, durant toute son existence, a eu un seul problème, ils disent qu'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de matériel, ils ont passé leur vie à changer de siège, mais ils n'ont rien réglé.
Merci pour ces précisions, Idriss Fall. Nous avons en ligne Serge Boaka et on revient à vous juste après.
Allô, bonsoir à la rédaction.
Oui, bonsoir Serge, merci de nous rejoindre.
Merci beaucoup madame. Concernant le retrait de l'ONU et la MINUSMA précisément du Mali, moi j'estime que le bilan est mitigé. Cela n'est pas un échec à part entière dans le sens où l'ONU est venue pour assurer une certaine stabilité. Quand bien même à ce jour, on ne peut pas parler de cette stabilité avec les récentes attaques, notamment au nord, mais il y a quand même l'accord de paix d'Alger qui a été signé et les groupes armés ont convenu ensemble avec l'armée malienne ou le gouvernement malien d'observer un certain retrait pour ce qui concerne la sécurité. Mais ce jour, parle d'un échec globalement, non, j'estime qu'il y a vraiment de points positifs, mais largement sur plusieurs points, notamment l'ONU n'a pas pu tenir la sécurité de la population malienne et une sorte de paix, entre guillemets, dans cette zone vraiment très turbulente en matière de paix.
Merci Serge Boaka, vous voyez plutôt un bilan mitigé. On va écouter une dernière réaction audio avant de clore ce débat.
Bonjour VOA Afrique. Nous disons que le bilan de l'AMINUSMA au Mali est quasi nul. Pourquoi? Parce que l'AMINUSMA est devenu une partie du problème et non la solution. Voilà, donc la mission qui lui était assignée, il a été incapable de faire ça. Voilà, de satisfaire à cette mission. Voilà, donc il est devenu une partie du problème et non une solution, avec toujours des dissensions avec l'État malien, l'État actuel malien, et en même temps aussi en prenant des sociétés civiles, des femmes de la société civile qui sont contre le régime actuel de la transition, pour diffamer, et puis des rapports unilatéraux biaisés au profit d'une puissance étrangère. Donc nous disons face à tout cela que le bilan de l'AMINUSMA est quasiment nul. Moi en tant que société civile, donc le bilan a été nul. Merci.
Merci à vous, à tous ceux qui nous ont laissé des réactions audio pour cette discussion sur le retrait de l'AMINUSMA. À votre avis sur VOA Afrique. Idriss, pour clore ce débat, quelles leçons peut-on tirer de la fin de cette mission et surtout de la tournure, y compris les relations entre la junte malienne et l'ONU vers la fin surtout?
Avec même la CDAO et tout ça, je donne seulement un exemple. J'avais fait une interview avec un certain président nigérien qui s'appelle Mohamed Bazoum. À un moment donné, au milieu de l'interview, il me dit que le Mali est un pays qui est par terre. Et j'avais rétorqué, je lui dis, mais un pays qui est par terre, au lieu de l'aider, vous le sanctionnez, parce qu'il y avait un coup d'État. Donc les priorités de la CDAO n'ont jamais été de combattre le djihadisme, alors que c'était sa mission fondamentale qui devait être là, accompagner les gens qui ont des groupes terroristes à combattre. Mais maintenant, on inverse aussi les choses. On les a entendus dire que oui, si vous faites un coup d'État, on vous ferme le robinet, on vous donne tout à boire et à manger. Donc on ne comprend plus dans cette région-là. Est-ce que des élections démocratiques, ça protège contre les terroristes? Tous les présidents maliens ont été élus démocratiquement. Donc ça n'a pas marché. Donc il faudrait que les gens voient qu'aujourd'hui, la priorité pour les États ouest-africains, c'est d'être ensemble et aller combattre les djihadistes là où ils sont. Au lieu de décider que oui, voilà, nous vous mettons, vous êtes voués aux hégémonies, les sanctions, et que. Donc, on est en train de rater un coche alors que les djihadistes, c'est comme de la mauvaise herbe. Ça se propage. Donc ce qui est au Mali, c'est arrivé au Burkina Faso, c'est en train de s'émer vers le nord du Togo et je ne sais pas où encore.
Je vous remercie Idriss Fall, rédacteur en chef ici à VOA Afrique, et merci à vous tous qui avez participé à ce débat, à votre avis sur VOA Afrique. Je vous laisse en compagnie de Jean-Roger Billon pour la suite de nos programmes. Restez avec nous.